Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
La musique de la Grande Guerre, une chronique de Christiane Weissenbacher.
On doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
En l'honneur de Martine Flight, la directrice de l'ADIAM invitée aujourd'hui au micro d'Accent 4, je vous propose, pendant que nos poilus marchent vers les lignes du front, un aperçu des écoles de musique telles qu'elles fonctionnèrent durant la Grande Guerre. On commencera par le conservatoire et le bel effort de guerre qui réalisèrent les sœurs Boulanger. Ayant remporté en 1913 le premier Grand Prix de Rome de composition, Lily, la cadette, séjourna peu après à la Villa Médicis, où elle rencontra des lauréats d'autres disciplines, comme l'architecte Jacques Debat-Ponsant. Ce pensionnaire connaissait bien le Comité des étudiants américains de l'École des Beaux-Arts, qui venait d'être créé sous la présidence de l'architecte américain Whitney Warren et qui recueillait des fonds américains au profit des plasticiens mobilisés. L'idée de Lily fut d'associer les étudiants du conservatoire à ceux des Beaux-Arts dans cette aide américaine. Et de fait, grâce à l'appui des autorités du conservatoire, de l'académie et du ministère, grâce aussi à la collaboration du compositeur américain Blair Fairchild, un comité franco-américain du conservatoire fut mis en place dès l'automne 1915. Pour Lily, cet effort s'arrêta avec la guerre, puisqu'elle mourut en 1918, après avoir dicté à sa sœur son Pie Jésus pour soprano, quatuor à cordes, harpe et orgue. Pour Nadia, second Grand Prix de Rome, il se poursuivra pendant 60 ans au Conservatoire américain de Fontainebleau, fondé en 1921 pour relayer les nombreuses Hochschulen qui attiraient les Américains en Allemagne et en Autriche avant la guerre. Le premier souci des sœurs Boulanger fut de créer un réseau de communication entre tous les membres de la grande famille du conservatoire. Les élèves et les professeurs, les actuels et les anciens, ceux du front et ceux de l'arrière. L'organe de cette communication fut la Gazette des classes du conservatoire, qui sortit 11 numéros entre décembre 1915 et juin 1918. Chaque fascicule, gros de 30 à 80 pages, contient, après la une des officiels, des extraits de lettres classées par ordre alphabétique d'expéditeurs et signés par exemple Caplet, Delvincourt, Gobert, Quéclin, Maréchal, Millot, Ravel, Wiermoos. Et pour Alexandra Lederich, qui consulta ce fonds exceptionnel de plus de 1000 lettres, le ton met dans l'ensemble l'art au-dessus de la patrie. Nos boulangères expédièrent aussi beaucoup de mandats et de colis, de la nourriture, des vêtements, des livres. Et il est touchant d'apprendre que parmi les bénéficiaires des aides financières figurent des compositeurs comme Éric Satie, qui a 50 ans en 1916, ou Louis Vierne, l'organiste de Notre-Dame, qui est en train de devenir aveugle.
Thank you.
Vers la fin, les lettres de la Gazette émaneront presque exclusivement des poilus. Les embusqués préfèrent se taire, et ils soulagent leur mauvaise conscience en redoublant de zèle dans les structures civiles qui les emploient souvent bénévolement. Orchestre, fanfare et école de musique. Les cours ont en effet repris partout, avec des effectifs réduits, certes, mais avec une ferveur patriotique sans précédent. Saint-Saëns est de tous les programmes, Wagner d'aucun. Comme l'écrit David Mastin, les professeurs non mobilisés doivent assurer les succès à venir, tout comme les professeurs mobilisés vont assurer le succès des armes. Il sera grandement instructif de découvrir, après cette musique de l'arrière, celle du quotidien vécu par les collègues envoyés au front.